jeudi 1er juin et vendredi 2 juin. Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones de CILS FM 107,9. Tout le monde en voiture, on monte dans une nouvelle édition du débrief. Alexis Gagnon avec vous au cours des 60 prochaines minutes pour couvrir la revue des informations internationales, nationales et provinciales. Merci d'écouter l'émission Le Débrief à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Voici votre revue de presse internationale pour les jeudis 1er juin et vendredi 2 juin. Attentat de Kaboul, sans revendication, toutes les pistes sont ouvertes, c'est dans le portail de Ouest-France. Toujours non revendiqué, l'attentat de mercredi qui a fait 90 morts civiles à Kaboul laisse les observateurs perplexes. Plusieurs organisations en sont potentiellement à l'origine et contribuent à faire de la capitale afghane l'endroit le plus dangereux du pays pour les civils. L'attentat au camion piégé qui a frappé Kaboul le 31 mai, tuant au moins 90 personnes et en blessant des centaines d'autres, n'a toujours pas été revendiqué à ce stade, écrit Ouest-France dans cet article. Plusieurs groupes insurgés sont susceptibles d'en être les auteurs. Les talibans ont nié toute implication, mais les analystes restent prudents. Les talibans, dont la traditionnelle offensive de printemps contre l'État afghan et les forces étrangères a démarré en avril, sont de loin le groupe djihadiste le plus puissant du pays. Chassés du pouvoir par une coalition menée par les Américains en 2001, les talibans ont regagné du terrain depuis le départ des troupes de combat de l'OTAN en 2014, menant plusieurs offensives audacieuses et s'assurant le contrôle d'une vaste partie du territoire. Donc voilà les éléments essentiels rapportés par Ouest-France à propos de cet attentat qui a fait 90 morts, toujours sans revendication. Et bien sûr, c'est traité par de nombreux médias. Cette semaine, je vous lis quelques lignes d'un article qui paraît dans le portail Mediapart à l'adresse mediapart.fr. La sécurité à Kaboul en question après l'attaque au camion piégé. C'est en fait tiré du fil de l'agence Reuters. La sécurité à Kaboul était dans tous les esprits jeudi au lendemain d'un spectaculaire attentat au camion piégé qui a fait au moins 80 morts et plus de 460 blessés dans le quartier diplomatique de la capitale afghane. Aucune revendication n'a été émise, mais la Direction nationale de la sécurité, la DNS, principale agence du renseignement afghan, estime que l'attaque est l'œuvre du réseau Haqqani, un groupe affilié aux talibans bénéficiant d'une assistance du Pakistan. La violence de l'attentat confirme que le mois sacré du Ramadan, qui vient de débuter, n'apportera aucun répit à la population afghane et aux habitants de Kaboul en particulier, où les attentats meurtriers se multiplient depuis des mois. Le président afghan Ashraf Ghani a prononcé une allocution télévisée mercredi soir invitant ses compatriotes à l'unité pour faire face aux actes de terrorisme. Mais dans les rues de Kaboul, précise cet article, l'accablement domine. Et ce papier rappelle que c'est l'un des attentats les plus meurtriers jamais commis dans la capitale afghane. On reste au Moyen-Orient et dans les colonnes de Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Mediapart dévoile une exclusivité aujourd'hui sur le conflit syrien. Comment Bachar al-Assad a gazé son peuple, les plans secrets et les preuves. C'est signé par le journaliste René Bachmann. Aujourd'hui, en exil, des scientifiques syriens qui ont participé à la fabrication des armes chimiques utilisées par le régime de Damas dévoilent pour Mediapart les secrets du complexe militaro-scientifique syrien. Ces scientifiques syriens révèlent que le dictateur se préparait à utiliser les gaz de combat contre ses opposants dès 2009, soit 2 ans avant les premières manifestations en faveur de la démocratie. Dès l'été 2009, écrit Mediapart, 2 ans avant l'explosion de la révolte populaire syrienne, le régime de Damas avait décidé d'utiliser des gaz de combat, en particulier le sarin, un neurotoxique mortel, contre sa propre population en cas de troubles internes. Le dictateur a attendu juillet 2011, juste après la première défection d'un officier de l'armée régulière, pour ordonner aux responsables des sites de production d'armes chimiques de concevoir aussi vite que possible des munitions de petite taille, obus, grenades, ogives de roquettes, adaptées à cet usage tactique. Et cet article de Mediapart souligne que le dictateur Bachar al-Assad a toujours nié l'utilisation d'un arsenal chimique, en particulier l'utilisation du sarin. Et le journal indépendant s'appuie sur de nombreuses sources qui conservent l'anonymat. Ce sont des transfuges aujourd'hui établis en Europe et au Moyen-Orient. Le caractère prémédité de ces crimes de guerre du dictateur syrien est l'une des révélations obtenues par Mediapart lors d'entretiens avec plusieurs scientifiques, experts ou ingénieurs syriens impliqués dans la conception et la fabrication des armes chimiques. Ils sont aujourd'hui en exil en Europe ou au Moyen-Orient. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces transfuges, dont certains ont aujourd'hui rejoint les rangs de l'opposition, qu'ils aident notamment à se protéger contre les gaz, ont livré à Mediapart de nombreuses informations inédites sur le complexe scientifico-militaire syrien, c'est-à-dire sur la nature et la quantité des armes chimiques encore détenues aujourd'hui par Damas, sur l'origine des matières premières et des installations utilisées pour les produire, l'emplacement des principaux sites d'études et de production, les vecteurs à la disposition des militaires syriens et les moyens employés pour tromper les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, et bien sûr les inspecteurs des Nations Unies. Alors voilà, une exclusivité obtenue par Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Comment Bachar al-Assad a gazé son peuple, les plans secrets et les preuves? C'est par le journaliste René Backman. On reste au Moyen-Orient et on revient dans les colonnes de West France un instant. Donald Trump reporte le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donald Trump a signé ce jeudi un décret qui retarde le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Admettant que cette mesure controversée serait de nature à entraver les négociations de paix israélo-palestinienne toujours dans l'impasse. Le président Trump a signé une clause dérogatoire permettant de conserver la chancellerie américaine à Tel Aviv pour 6 mois supplémentaires, a précisé un responsable américain sous couvert d'anonymat, ajoutant que le président pense que ce n'est pas le bon moment. Toujours selon ce responsable américain, le président républicain reste déterminé toutefois à tenir sa promesse de campagne électorale, mais n'a pas fixé pour l'instant d'échéance. Donc l'ambassade américaine qui demeure pour le moment à Tel Aviv, c'est dans le journal West France que vous trouverez cette information. On parle de climat maintenant en se déplaçant du côté du journal Le Monde. Face à Donald Trump, la Chine, l'Union européenne et le Canada défendent l'accord de Paris sur le climat. L'Union européenne et la Chine, réunies en sommet jeudi 1er et vendredi 2 juin à Bruxelles, se tiennent prêtes à défendre l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique au moment même où Donald Trump fait durer le suspense sur un éventuel retrait américain. Le Canada espère, de son côté, que les États-Unis ne se retireront pas de cet accord international. Le Canada restera engagé dans cet accord, peu importe la décision du voisin américain, a déclaré mercredi la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna. J'ai eu de nombreuses discussions avec mon homologue américain et insisté sur le fait que 90% de l'accord reste à négocier et qu'il vaut mieux rester à la table des discussions pour pouvoir le faire, a déclaré la ministre lors d'une conférence de presse. Sous l'ère de Barack Obama, Washington et Pékin s'étaient, quant à eux, affichés côte à côte, pilier majeur de la signature de l'accord en décembre 2015, accord dans lequel 196 pays, sous l'égide de l'ONU, se sont engagés à limiter le réchauffement des températures et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vendredi, à Bruxelles, la Chine sera aux côtés de l'Union européenne pour une déclaration commune face aux atermoiements américains afin de confirmer leur engagement envers l'accord historique de Paris et accélérer leur coopération pour améliorer sa mise en œuvre, selon un projet de déclaration que l'agence France-Presse a pu consulter. Voilà, donc l'article se poursuit sur quelques paragraphes si vous voulez approfondir, c'est dans le journal Le Monde. Toujours à propos de la Chine, cette fois dans les pages du média West France, la Chine demande à nouveau le retrait du THAAD de Corée du Sud. Pékin réclame une nouvelle fois ce jeudi le retrait des équipements antimissiles THAAD déployés en Corée du Sud pour prévenir toute menace militaire venant de la Corée du Nord. La Chine a de nouveau demandé jeudi le retrait de ses batteries antimissiles de conception américaine déployées en Corée du Sud. Le déploiement de ce bouclier, poursuit cet article connu sous le nom de Terminal High Altitude Area Defense, a débuté fin avril et est censé répondre à la menace balistique posée par la Corée du Nord. Ce dispositif avait déjà été critiqué à maintes reprises par la Chine. La Chine redoute que les radars dont sont dotés ces systèmes d'interception de missiles en haute altitude ne servent aussi à surveiller les mouvements de troupes chinoises ou encore les systèmes antimissiles chinois. La demande de retrait a été formulée jeudi par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. On va ouvrir à présent le portail bastamag.net, un article sur les inégalités aux USA. Aux États-Unis, les patrons gagnent en moyenne 347 fois plus que leurs salariés. C'est un article signé par Olivier Petitjean. 13,1 millions de dollars, c'était, selon la Confédération syndicale américaine AFL-CIO, le salaire moyen d'un grand patron américain en 2016, à comparer avec les 37 600 dollars que gagne un employé moyen, soit 347 fois moins. La rémunération moyenne des dirigeants a augmenté de 5,9% en un an, tandis que le salaire moyen, si l'on tient compte de l'inflation, stagne depuis 50 ans, selon l'AFL-CIO. Pour son président Richard Trump, c'est une preuve supplémentaire que la cupidité des patrons aggrave les inégalités de revenus. Les grandes entreprises trouvent continuellement de nouveaux moyens de piper l'économie en leur faveur pour remplir les poches des patrons au détriment des travailleurs qui font marcher leur activité. Selon les calculs de l'AFL-CIO compilés dans le site Paywatch, le patron américain le mieux payé en 2016 était Sundar Pichai, patron d'Alphabet ou si vous préférez de Google, qui est la maison mère, Alphabet est la maison mère de Google. Et ce patron donc d'Alphabet gagnait un peu plus de 100 millions de dollars. Une nouvelle règle a été introduite par l'administration fédérale américaine juste avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour forcer les grandes entreprises cotées en bourse à révéler à partir de cette année, c'est-à-dire en 2017, le ratio entre la rémunération des dirigeants et le salaire médian dans l'entreprise. Les grands lobbies économiques se sont opposés avec acharnement à la mise en œuvre de cette obligation, votée par le Congrès en 2010. Selon le New York Times, ces lobbies font aujourd'hui le siège à Washington pour obtenir son abandon pur et simple. Et cet article recense les patrons les mieux payés. On trouve notamment Tim Cook de la société Apple qui gagne 150 millions de dollars par année. On a aussi un responsable du commerce électronique chez Walmart qui gagne près de 237 millions de dollars par année. Ces calculs tiennent compte du salaire, bien sûr, des bonus, des primes spéciales, des indemnités et des pensions. Alors, vous trouverez cet article sur les inégalités aux États-Unis dans le portail bastamag.net. On se déplace dans les pages du Figaro à présent. Un avion géant capable de lancer des fusées dévoilé par le cofondateur de Microsoft. Le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a présenté ce mercredi un avion géant capable de lancer des fusées dans l'espace. Le premier vol d'essai est prévu en 2019. L'avion présenté hier dans le désert du Mojave est impressionnant, écrit le Figaro. Propulsé par 6 réacteurs et conçu avec un double fuselage, il a été dévoilé par Stratolaunch, une société financée par Paul Allen dans le désert du Mojave au sud-ouest des États-Unis. Reposant sur 28 roues, cet avion pèse plus de 230 tonnes et a une envergure de 117 mètres pour une longueur de 72 mètres. Cet avion sera capable de transporter et de lancer une fusée pour placer en orbite basse des satellites ou d'autres équipements. Selon les concepteurs de l'appareil, un tel système apporte plus de flexibilité que de faire décoller des fusées directement depuis la Terre. Le plus grand avion du monde pourrait aussi emporter des êtres humains à son bord, précise l'article. Le projet avait été lancé en 2011 par Paul Allen et l'ingénieur Bert Rutan, qui avait mis au point le Space Hypone, un premier avion expérimental privé américain à avoir volé dans l'espace à plus de 100 km d'altitude, soit au-delà de l'atmosphère terrestre. Cela représente une étape historique dans notre ambition de concrétiser la vision de Paul Allen, qui est de normaliser l'accès au vol en orbite basse, a souligné Gene Floyd, le responsable de Stratolaunch Systems Corporation. C'est le premier avion de ce genre et nous allons être très rigoureux dans la phase d'essai, a continué le porte-parole. Le premier vol d'essai, rappelle cet article, est prévu pour l'année 2019. On revient dans les colonnes de Ouest-France. Antarctique, un iceberg géant sur le point de se détacher du continent. Un des plus gros icebergs jamais vus est sur le point de se séparer du continent antarctique, ont indiqué ce jeudi des chercheurs d'une université britannique. Surveillée depuis des années, la crevasse s'est encore allongée de 17 km en seulement 6 jours, du 25 au 31 mai dernier. C'est l'un des plus gros blocs de glace jamais observés dans la région. Un iceberg géant est sur le point de se détacher du continent antarctique, selon les indications de chercheurs de l'université Swansea au Royaume-Uni. Observée depuis des années, la crevasse, qui fissure sur près de 200 km, un énorme pan de glace attaché à l'ouest de l'Antarctique, s'est encore allongée de 17 km en seulement 6 jours. Il ne reste plus que 13 km avant que ce morceau de banquise de plus de 5000 km², soit 50 fois la superficie d'une ville comme Paris, ne se détache selon les scientifiques. Une fois libéré, cet iceberg n'aura pas d'impact sur le niveau des océans car il flotte déjà sur l'eau, précise cet article. Mais il fait partie d'une gigantesque barrière baptisée Larsen Sea qui retient des glaciers capables, eux, de faire gagner 10 cm aux océans de la planète s'ils finissaient par se trouver à terme exposés à l'océan Antarctique. La perte d'un tel morceau rendra tout le plateau vulnérable à de futures ruptures, souligne le communiqué des chercheurs. Voilà, donc on a une rupture imminente dans l'Antarctique, un iceberg géant sur le point de se détacher du continent. C'est dans Ouest-France. Et nous allons terminer avec une autre actualité scientifique. Cette fois, on parle d'archéologie. Une nouvelle qui paraît dans le portail exponote.com, c'est sous la plume de la journaliste Agathe Lauréamont. Des fresques vieilles de 1600 ans découvertes dans les catacombes de Rome. Il est des régions de notre petite planète bleue qui, semble-t-il, cherchent à nous surprendre encore et toujours en livrant au compte-gouttes leurs secrets les plus incroyables, écrit la journaliste. À Rome, tandis que des restaurateurs flanqués d'archéologues travaillaient aux dernières réparations des catacombes, leur exploration a permis de mettre au jour des fresques jusqu'alors inconnues, probablement réalisées il y a plus de 1600 ans. Les travaux à l'intérieur des catacombes étaient presque terminés et voilà qu'ils vont devoir se prolonger pendant encore quelques temps, écrit la journaliste Barbara Mazzei, se trouvant à la tête de l'équipe d'archéologues et de scientifiques représentant la Commission pontificale pour l'archéologie sacrée, s'émerveille encore de cette trouvaille pour le moins inattendue. Les fresques tout juste retrouvées demeuraient cachées sous une épaisse couche de craie sur laquelle s'étaient déposées mousse et algues, se développant du fait de l'humidité importante régnant dans les catacombes. Travaillant millimètre par millimètre, les chercheurs ont révélé avec une infinie patience des scènes représentant les morts enterrés dans les catacombes, souvent accompagnés de saints, ainsi que des représentations d'un duo de soldats, probablement des martyrs, qui furent persécutés sous le règne de l'empereur Dioclétien. Cette incroyable découverte a permis aux archéologues de dater la fresque aux alentours de la seconde moitié du 4e siècle après Jésus-Christ, à l'époque où ce type d'iconographie était très fréquent. Un article fascinant qui paraît dans le portail exponote.com, des fresques vieilles de 1600 ans découvertes dans les catacombes de Rome. Et c'est sur cette nouvelle archéologique que se referme la revue de presse internationale des 1er et 2 juin. Restez avec nous à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. Merci d'être à l'écoute de votre rendez-vous info quotidien. L'émission Le Débrief se poursuit. Édition des 1er et 2 juin. On va passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Dans le portail de Radio-Canada, Québec relance le débat constitutionnel. Le Québec a décidé de relancer le débat constitutionnel selon ce qu'a appris la presse canadienne. Bien déterminé à voir sa différence enfin reconnue officiellement d'un océan à l'autre, le Québec va lancer une vaste offensive à travers le pays pour convaincre les Canadiens de la justesse de ses revendications. Le gouvernement du premier ministre québécois Philippe Couillard cherche ainsi à créer les conditions favorables à la reprise d'éventuelles négociations constitutionnelles. Le moment venu. À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait donc adhérer à la loi constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille canadienne. L'approche privilégiée par le gouvernement québécois est essentiellement pédagogique, indique cet article. Pas de couteau sur la gorge, aucune échéance fixée. On veut surtout communiquer, convaincre et expliquer. Pour y arriver, le gouvernement de Philippe Couillard a choisi de fondre la délicate et complexe question constitutionnelle dans une redéfinition plus vaste des relations entre le Québec et le Canada. Le premier ministre Couillard aura mis quelques années à étayer sa pensée sur le sujet, à préciser son argumentaire et a rédigé une brique de près de 200 pages, un texte fondateur décrivant dans le détail la position de son gouvernement sur la place du Québec au sein de l'ensemble canadien. Ce document, dont la presse canadienne a obtenu copie, est intitulé « Québécois, c'est notre façon d'être canadien » et ce document constitue la toute première politique du gouvernement Couillard d'affirmation du Québec et des relations canadiennes. Et cette démarche a suscité des réactions, bien sûr, à Ottawa. On a aussi cet article dans le fil de la presse canadienne sous la plume de la journaliste Mylène Kratt. On ne rouvre pas la Constitution, c'est le titre de cet article. Et celui qui fait cette déclaration, c'est Justin Trudeau, le premier ministre. Justin Trudeau n'a pas tardé jeudi à crever le ballon constitutionnel du premier ministre québécois Philippe Couillard, qui doit présenter plus tard en après-midi sa politique d'affirmation du Québec et des relations canadiennes. Dès son arrivée à la réunion de son conseil des ministres, le premier ministre Trudeau a rappelé sa position sur la question constitutionnelle. Il ne veut pas en parler. « Vous connaissez mes opinions sur la Constitution », a déclaré le premier ministre. « On ne rouvre pas la Constitution », a-t-il lâché en s'éloignant vers son bureau. À l'Assemblée nationale, cette première réaction a provoqué, elle aussi, sa part de réaction. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, y a vu une gifle. Le premier ministre du Canada, a-t-il déclaré, vous a dit non ce matin sans même vouloir vous lire. S'est-il offusqué en interpellant le premier ministre Philippe Couillard. Et celui-ci a répliqué, le Canada ne se résume pas à la personne du premier ministre du Canada, ni même au gouvernement actuellement à Ottawa ou au parti politique formant le gouvernement, a-t-il répondu. Pour ce qui est de la réaction du premier ministre du Canada, a continué le premier ministre Philippe Couillard, il aura l'occasion, je crois, de reprendre lorsqu'il aura lu le document. Donc voilà, le premier ministre libéral du Québec, Philippe Couillard, qui souhaite relancer les échanges à thématique constitutionnelle, rouvrir le débat constitutionnel au Canada. Donc des réactions de part et d'autre. Et pour revenir sur la nomination de Madeleine Meyer au commissariat aux langues officielles, le sujet, bien sûr, continue d'occuper l'avant-plan de l'actualité. On a un article dans le portail de Radio-Canada intitulé « Madeleine Meyer n'a jamais discuté du poste de commissaire avec Bot et Telford », selon Mélanie Joly. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a provoqué de hauts cris en Chambre des communes à Ottawa en soutenant que les deux plus proches conseillers du premier ministre Justin Trudeau n'avaient pas discuté du poste de commissaire aux langues officielles avec Madeleine Meyer. L'opposition a fortement réagi à cette affirmation. Le conservateur John Brassard rappelant que l'ancienne députée libérale ontarienne, Madeleine Meyer, avait elle-même reconnu au comité des langues officielles à Ottawa qu'elle avait signifié son intérêt pour le poste de commissaire auprès de Gerald Butts et de Katie Telford, donc les deux fameux conseillers très proches du premier ministre. La ministre Joly, qui est responsable du dossier des langues officielles, a passé une bonne partie de la période des questions en chambre sur ses pieds à se faire chahuter par les députés des formations adverses, comme c'est le cas depuis plusieurs séances. Le gouvernement libéral est sur la sellette depuis l'annonce de la nomination de Madeleine Meyer au poste de commissaire aux langues officielles, rappelle cet article de Radio-Canada. Les conservateurs et les néo-démocrates tentent depuis des jours de bloquer cette nomination qu'ils considèrent comme partisane. Le 18 mai dernier, lors de sa comparution devant le comité des langues officielles, l'ancienne députée ontarienne d'Ottawa Vanier à Queen's Park en a étonné plus d'un en affirmant qu'elle avait approché le secrétaire principal et la chef de cabinet du premier ministre Trudeau. Voilà, donc le feuilleton se poursuit et on a aussi cet autre article paraissant dans le portail de Radio-Canada. Deux anciennes employées de Madeleine Meyer travaillent maintenant pour Mélanie Joly. Deux anciennes employées de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, ont travaillé pour la candidate du gouvernement au poste de commissaire aux langues officielles lorsqu'elle était ministre libérale ontarienne à Queen's Park. Queen's Park, c'est l'Assemblée législative de l'Ontario. La directrice des communications et une adjointe de Madame Joly, Christine Michaud et Vinciane Muzeroux, ont toutes deux occupé des postes au bureau de Madeleine Meyer lorsqu'elle était procureure générale et ministre responsable des affaires francophones de l'Ontario. Donc voilà, un nouveau rebondissement dans le dossier de la nomination de Madeleine Meyer au commissariat aux langues officielles. Et ce n'est pas tout. On a aussi cet article paraissant dans le portail TFO. TFO, c'est la chaîne publique francophone de l'Ontario. Et cet article est intitulé « Des leaders francophones au secours de Madeleine Meyer ». Un article signé par Benjamin Vachet. Dans une lettre envoyée à la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, en date du 31 mai, et dont Benjamin Vachet a pu obtenir copie, plusieurs leaders de la communauté francophone, principalement de l'Ontario, apportent leur appui à la nomination de Madeleine Meyer comme nouvelle commissaire aux langues officielles du Canada. « Nous vous écrivons, peut-on lire dans cette lettre, pour souligner notre appui à la nomination de Madeleine Meyer au poste de commissaire aux langues officielles. Ce poste de vigile de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles est d'une importance capitale pour le respect des droits linguistiques de tous les Canadiens et Canadiennes. Nous sommes d'avis que le comité de sélection a fait le choix qui s'impose suite au processus rigoureux qu'il avait mis en place. Madeleine Meyer possède toutes les qualités requises pour s'acquitter des fonctions que la loi lui confie. » Tout au long de ses différentes carrières, Madeleine Meyer a démontré professionnalisme, jugement et surtout intégrité. Peut-on lire dans cette missive co-signée par plus de 90 personnes, majoritairement des Franco-Ontariens de la région d'Ottawa, précise Benjamin Vachet. Donc la région d'Ottawa, bien sûr, qui est l'ancienne circonscription de Madeleine Meyer lorsqu'elle était députée élue à Queen's Park. Alors je rappelle le titre de cet article dans le portail francophone de TFO, « Des leaders francophones au secours de Madeleine Meyer ». On va rester à Ottawa, cette fois pour parler d'un autre sujet, activité de financement. Ottawa dépose un projet de loi sur les activités de financement payantes. C'est dans le fil de la presse canadienne, sous la plume de Joanne Bryden. Les libéraux de Justin Trudeau ont présenté mercredi un projet de loi visant à mettre un terme au caractère secret des activités de financement auxquelles prennent part le premier ministre, des membres du conseil des ministres, des chefs de parti et des candidats à la direction d'une formation. Les critiques dans les rangs de l'opposition n'ont pas tardé à venir, certains soutenant que le projet de loi ne règle pas le problème de l'accès préférentiel au premier ministre et à ses ministres en échange d'importantes sommes d'argent. Le projet de loi ne va pas aussi loin que les règles adoptées plus tôt cette année par le Parti libéral du Canada après qu'il se soit retrouvé dans l'eau chaude l'automne dernier pour avoir tenu des activités de financement exclusives dans des résidences privées. Des individus bien nantis avaient payé jusqu'à 1 500 $ pour côtoyer le premier ministre Justin Trudeau ou un membre de son cabinet, rappelle cet article de la presse canadienne. La loi proposée, si elle est approuvée, obligera les partis politiques à communiquer à Élections Canada dans un délai de 30 jours suivant l'événement de financement le nom et l'adresse des participants à celui-ci. Le montant des contributions associées à chaque personne devra aussi être indiqué. L'info se poursuit dans cette revue de presse nationale. Marijuana, Trudeau met des jeunes en danger, disent les conservateurs. C'est sous la plume de la journaliste Marie Vastel, qui est correspondante du Devoir à Ottawa. Le projet de légalisation de la marijuana de Justin Trudeau essuie les critiques de l'opposition à Ottawa. Les néo-démocrates le jugent trop punitif, tandis que les conservateurs martèlent qu'il ne l'est pas assez. Ces derniers pensent qu'en permettant la culture personnelle à la maison, le gouvernement libéral mettra en danger les jeunes Canadiens. La ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, a rétorqué qu'il reviendrait simplement aux parents de s'assurer que leurs plants de cannabis sont hors de portée des enfants. La loi prévoit la possibilité pour des individus de cultiver chez eux, tout en reconnaissant que les adultes s'assureront, comme ils le feraient pour des médicaments sur ordonnance ou de l'alcool, de mettre en place des mesures de sécurité pour les jeunes afin de les empêcher d'y avoir accès. Mais une plante comme le cannabis, par définition, ne peut être cachée dans une armoire, ont répliqué les conservateurs en Chambre des communes. Si la ministre de la Justice consultait les statistiques d'empoisonnement, elle verrait que les enfants mangent des plantes constamment parce que leurs parents ne les mettent pas dans des placards, a fait valoir la députée Marilyn Gladue, une députée conservatrice. Vous trouverez cet article sous la plume de Marie Vastel dans les pages du Devoir. Et l'information se poursuit dans cette revue de presse canadienne. On va se déplacer maintenant dans les pages du Journal de Montréal. Trop perçu de 1,4 milliard de dollars d'Hydro-Québec, une pétition de 48 000 noms exige le remboursement. La coalition Avenir Québec au Québec, c'est une formation politique, a recueilli une pétition de 48 000 noms demandant le remboursement des trop perçus de 1,4 milliard de dollars par Hydro-Québec. La pétition de 48 000 noms a été déposée mercredi au bureau du ministre responsable de la Société d'État, Pierre Arcan. Le gouvernement Couillard ne peut ignorer les 48 000 Québécois qui ont manifesté leur colère et qui ont signé notre pétition pour exiger un remboursement des trop perçus d'Hydro-Québec, a souligné la députée caquiste Chantal Soucy. Les calculs effectués par la formation politique démontrent qu'entre 2008 et 2015, les Québécois ont payé 1,4 milliard de plus qu'ils auraient dû payer, soit 350 $ par client. En 2016, les trop perçus auraient atteint 36 millions de dollars. Donc, cette information paraît dans le Journal de Montréal. Petite brève technologique en passant, Android Pay arrive au Canada. C'est rapporté par Jean-François Coderre, qui est un journaliste techno du journal La Presse. Un peu plus de 18 mois après son rival Apple Pay, Google a lancé hier au Canada son propre système de paiement par appareil mobile, Android Pay. Les détenteurs de la plupart des appareils Android, lancés depuis l'automne 2013, pourront désormais payer rapidement leurs achats auprès de 80% des détaillants. Le Canada devient ainsi le 12e pays où Android Pay est maintenant offert. Le service a d'abord été introduit en septembre 2015. Et on va terminer avec une nouvelle sportive. Dans le journal La Presse, on nous signale qu'Eugénie Bouchard s'est inclinée malheureusement au deuxième tour du tournoi Roland-Garros. Le parcours de la Montréalaise Eugénie Bouchard aux internationaux de tennis de France s'est terminé de façon abrupte jeudi alors qu'elle s'est inclinée en deux manches 6-3, 6-0 contre la Lettonne Anastasia Sevastova. Le duel n'a duré que 59 minutes et Sevastova a été particulièrement expéditive lors du deuxième set qu'elle a gagné en seulement 18 minutes. Ici se clôt la revue de presse nationale pour les 1er et 2 juin. L'émission Le Débrief va vous revenir dans quelques secondes avec votre rubrique francophone du jour. Restez à l'écoute. Après les revues de presse internationales et nationales, voici votre rubrique francophonie pour les 1er et 2 juin. Et la nouvelle qu'on a repérée pour vous aujourd'hui paraît dans le portail de TV5 Monde, tv5monde.com. On remarque un peu partout dans la presse francophone, surtout en France, que il y a une petite anomalie dans le cabinet du nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Édouard Philippe en France. Il n'y a plus de ministère de la francophonie. Gouvernement Philippe, francophonie, où es-tu? C'est le titre de cet article qui paraît dans le portail de TV5 Monde. Signe des temps? Oubli, volonté politique, l'absence de ministère et de secrétariat d'État dédié à la francophonie en France étonne les observateurs. Un rapide coup d'œil sur Internet ne fait que confirmer les doutes. La page Wikipédia intitulée « Liste des ministres français de la francophonie » renvoie à une image manquante et en lieu et place du nom du titulaire actuel, on peut lire « Poste vacant depuis le 10 mai 2017 ». Il y a un autre média qui en parle, c'est le média Les Échos. Je vais vous lire quelques lignes de l'article que fait paraître le quotidien économique Les Échos que l'on trouve à l'adresse leséchos.fr. Mais où est donc passé le ministère de la francophonie? C'est signé par le journaliste Gilles Djerayamen. Pas de ministère ou de secrétariat d'État dédié à la francophonie. Le portefeuille sera géré directement par le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il s'agit là d'une décision politique réfléchie comme cela avait déjà été le cas dans plusieurs gouvernements précédents. Toutefois, cette absence risque de décourager les nombreux défenseurs de la francophonie à travers le monde. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec près de 275 millions de locuteurs dans plus d'une centaine de pays. Plus de 200 millions l'utilisent quotidiennement. Le français est la 4e langue d'Internet, la 3e langue des affaires, la 2e langue de travail de la plupart des organisations internationales. Certaines estimations portent la population mondiale francophone à 750 millions de locuteurs en 2050. Mais la francophonie ne se limite pas à l'utilisation de la langue française. En effet, la francophonie institutionnelle, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, est aujourd'hui composée de 84 États et gouvernements. Donc, ce papier qui finit sur un grand point d'interrogation et le titre l'annonçait déjà. Mais où est donc passé le ministère de la francophonie? Alors, pas de ministère de la francophonie dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a été nommé par le nouveau président Emmanuel Macron. Beaucoup de perplexité sans doute à l'international. On se demandera à qui les pays francophones pourront parler sur les dossiers touchant la francophonie. Il semble que ce sera désormais au ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qu'il faudra s'adresser. Bon, à suivre. Donc, je vous recommande ces deux papiers. Le premier dans le portail de TV5 Monde, tv5monde.com. Francophonie, où es-tu? Et le suivant dans le portail des Échos, leséchos.fr. Mais où est donc passé le ministère de la francophonie? C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 1er et 2 juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps. Il y a des jours qui sont passés, il y a des nuits qui ont brûlé, il y a des mois, des années. Il y a de l'eau qui a coulé, des ciels qui ont changé, il y a des mois, des années. Mais il y a toujours une chanson, un parfum dans la maison. Toujours ce que tu préfères. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comment on était vivant. Appelle-moi, ça me fera plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps. Il y a des fronts qui ont soufflé, du sable qui a volé, il y a de ça, des années. Il y a des pages qu'on a tournées, des routes qu'on a tracées, il y a de ça, des années. Mais il y a toujours une chanson, un parfum dans la maison. Toujours ce que tu préfères. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comment on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps, tout le temps. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comment on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps.
Tout me ramène à toi, une pièce de rock voisine. Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission Le Débrief. Ça n'est pas terminé, l'info se poursuit dans votre édition des 1er et 2 juin. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On ouvre tout de suite la revue de presse britanno-colombienne. Et ça commence avec la crise sanitaire des surdoses qui n'est pas terminée, loin s'en faut, dans la province. Un article qui paraît sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada intitulé « Les surdoses tuent plus de 4 personnes par jour en Colombie-Britannique ». Ce sont des chiffres provisoires alarmants que le service des coronaires de la Colombie-Britannique vient de publier. En avril, 4,5 personnes en moyenne ont succombé chaque jour à une surdose dans la province de Colombie-Britannique, soit 136 décès. C'est un texte que signe en passant Noémie Mukanda dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Le nombre de morts, écrit-elle, est deux fois plus important qu'en avril 2016. La coroner en chef de la province se dit inquiète car cette crise ne semble pas s'essouffler malgré les mesures de réduction des méfaits en place et les messages de sécurité publique. Lisa Lapointe affirme que plus de la moitié de ces surdoses mortelles surviennent dans des résidences privées où il n'est pas facile d'apporter de l'aide alors qu'il existe des centres d'injection supervisé. J'invite vivement les personnes qui prennent des drogues illicites à le faire uniquement dans un lieu de consommation sécuritaire ou un lieu de prévention de surdose, a déclaré Lisa Lapointe. La coroner en chef de la Colombie-Britannique recommande aussi aux consommateurs de ne prendre qu'une petite quantité de drogue et ce, en présence d'une personne qui peut leur administrer de la naloxone en cas de surdose ou appeler les secours. Et rappelons que la naloxone, c'est un antidote contre les surdoses de fentanyl. Plus de 80% des surdoses, poursuit cet article en Colombie-Britannique, concernent les hommes et dans plus de la moitié des cas, les victimes sont âgées de 30 à 49 ans. Vancouver compte le nombre le plus élevé de surdoses mortelles. Surrey vient en seconde position, suivi de la ville de Victoria. Ces surdoses sont attribuées dans la plupart des cas au fentanyl, un antidouleur synthétique puissant. Entre 2015 et 2016, le fentanyl a été la cause de près de 45% des surdoses ayant conduit à la mort. Alors rappelons le titre de cet article. Les surdoses tuent plus de 4 personnes par jour en Colombie-Britannique. Un autre sujet très d'actualité, celui de l'élection du 9 mai, bien sûr, Colombie-Britannique. L'accord entre le NPD et le Parti vert a été déposé. C'est ce que nous indique la presse canadienne. Les chefs du nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique et du Parti vert se sont présentés au Parlement pour livrer des exemplaires signés de leur accord de coopération de 4 ans dans le but de former le prochain gouvernement. Un représentant de la lieutenante-gouverneure de Colombie-Britannique, Judith Guichon, a accepté les documents en son nom mercredi. Le chef du NPD, John Horgan, et le chef du Parti vert, Andrew Weaver, ont affirmé que l'entente démontrait clairement à la lieutenante-gouverneure l'engagement des deux partis à former le prochain gouvernement provincial. Les chefs ont soutenu que l'accord exposait un arrangement de travail signé de bonne foi que Judith Guichon devrait prendre en considération dans des délibérations qui pourraient l'amener à demander au NPD de constituer le prochain gouvernement. Et cet article rappelle que la première ministre Christy Clark, qui semble résignée à un transfert de pouvoir, a tout de même affirmé qu'elle convoquerait l'Assemblée législative en juin pour un possible test de confiance à l'endroit de son gouvernement libéral. Les libéraux de Christy Clark ont remporté 43 sièges au scrutin du 9 mai, rappelle l'article, à un siège de la majorité absolue, qui est 44 sièges. Mais l'accord formel entre le NPD et les Verts leur accorde 44 sièges et la majorité parlementaire. Donc c'est très serré et cet accord NPD-PV, comme on appelle le Parti vert, va être déterminant. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. Et pour demeurer dans le dossier de l'élection provinciale en Colombie-Britannique, le chef du NPD est certain qu'aucun de ses députés n'ira dans le camp libéral. Ça paraît dans le portail de Radio-Canada. Le chef du nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique, John Horgan, est convaincu que les députés de son parti seront loyaux et qu'aucun d'entre eux ne quittera le NPD pour rallier le camp des libéraux. Non, cela ne m'inquiète pas du tout, a-t-il déclaré au sujet de cette possibilité. Si les libéraux réussissent à convaincre un député vert ou du NPD de les rejoindre, ils formeraient un gouvernement majoritaire. Les députés du Parti vert de la province ont aussi dit qu'ils ne prévoyaient pas de changer d'allégeance. Donc c'est cette solidarité et cette cohésion de groupe que va tester justement la première ministre Christy Clark ce mois-ci lors d'un vote de confiance à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique, ici même à Victoria. Donc c'est à suivre. Mais pour le moment, tant le NPD que le Parti vert indiquent que la cohésion est totale dans les rangs respectifs de leur parti. On va parler d'énergie maintenant. La construction de l'oléoduc Trans Mountain, toujours prévue en septembre. C'est dans le portail Albertain de Radio-Canada. Kinder Morgan entend toujours commencer la construction de son projet de pipeline Trans Mountain en septembre, malgré l'alliance entre les néo-démocrates et les Verts en Colombie-Britannique. Le président de Kinder Morgan Canada, Ian Anderson, a indiqué dans un communiqué que l'entreprise commence à accorder des contrats importants maintenant que le financement et une décision finale d'investissement ont été mises en place. Ian Anderson indique aller de l'avant avec les ententes de prestations avec les communautés locales et les réserves autochtones traversées par le pipeline. Les partis d'opposition en Colombie-Britannique, qui ont dévoilé une entente afin de former un gouvernement minoritaire, s'opposent à l'agrandissement du projet. Selon l'entente dévoilée mardi, le NPD et les Verts indiquent qu'ils utiliseront tous les moyens pour tenter d'arrêter le projet Trans Mountain. Le projet a actuellement le feu vert d'Ottawa, rappelle cet article de Radio-Canada Alberta. Il a aussi l'appui de l'Office national de l'énergie et a obtenu un certificat d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique avec de nombreuses conditions. Et pour rester dans le dossier Trans Mountain, toujours dans le portail de Radio-Canada, cette fois du côté britanno-colombien du portail, opposition à Trans Mountain, peu d'outils juridiques pour la Colombie-Britannique, selon un expert. Un nouveau gouvernement en Colombie-Britannique appuyé par une alliance NPD-Vert aurait peu d'outils juridiques pour arrêter l'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan, malgré son intention de le faire. C'est ce que soutient un expert consulté par Radio-Canada. Le pipeline tombe sous compétence fédérale et c'est donc Ottawa qui peut prendre une décision, rappelle Hugo Tremblay, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste dans le domaine des ressources naturelles et du droit de l'environnement. Légalement, la province a peu de moyens d'arrêter la construction de ce pipeline, selon cet expert. Hugo Tremblay ajoute que Kinder Morgan a déjà l'approbation fédérale et que la jurisprudence des cours indique clairement que c'est le gouvernement fédéral qui régit ces projets interprovinciaux. Hugo Tremblay souligne que cette doctrine des cours qui tend vers une prépondérance des pouvoirs vers le fédéral met en danger l'environnement en empêchant la prise en compte des réalités locales. Mais bon, il y a de l'espoir pour les opposants au pipeline de Trans Mountain, nous indique en substance cet article. Je vous lis quelques autres lignes un peu plus bas. La province a toutefois certains pouvoirs en matière d'environnement, rappelle Hugo Tremblay. La province peut imposer certaines conditions, dit-il, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait en janvier dernier lorsque l'administration de Christy Clark a octroyé le certificat d'évaluation environnementale à Kinder Morgan. Une possibilité pour mettre des bâtons dans les roues de Kinder Morgan serait par exemple une révision du processus de délivrance de ce certificat. Mais le professeur voit difficilement comment cela pourrait être le cas pour l'instant. La province, par ailleurs, pourrait rendre plus difficile certains permis de construction de routes, d'utilisation de matériaux lourds ou d'amarrage, mais cela ne veut pas dire que le projet serait avorté. Et plus loin dans cet article, on souligne qu'en conférence de presse cette semaine, le chef du Parti vert, Andrew Weaver, a fait allusion à l'article 35 de la Constitution canadienne, qui réfère aux droits des Premières Nations et au devoir de les consulter pour arrêter Trans Mountain. C'est effectivement l'épée de Damoclès qui pèse sur ce projet, croit Hugo Tremblay, le même spécialiste interviewé par Radio-Canada. Ce spécialiste précise que le gouvernement provincial ne peut pas invoquer lui-même cette provision constitutionnelle, mais pourrait faciliter les recours des Premières Nations dans ce dossier. Hugo Tremblay croit qu'un autre levier de pouvoir pourrait changer la donne, l'opinion publique. Il cite en exemple le gaz de schiste au Québec qui s'est heurté à une forte opposition de la population. Il faudrait un engagement de très, très haut niveau pour espérer un réel changement, a-t-il constaté. Alors, vous trouverez cet article sur les mesures que pourrait prendre la Colombie-Britannique pour s'opposer à Trans Mountain dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Et cette revue de presse provinciale se poursuit. On va parler de l'accès aux services en français et plus particulièrement à l'éducation en français. Éducation en français en Colombie-Britannique, l'offre ne suit pas la demande. C'est dans le portail de Radio-Canada. Des sénateurs déplorent le manque d'accès à l'éducation en français en Colombie-Britannique dans leur dernier rapport, mais reconnaissent la popularité grandissante des programmes. Dans sa présentation, la présidente du comité sénatorial permanent des langues officielles, Claudette Tardif, qu'on avait d'ailleurs déjà interviewée dans l'émission Le débrief. Donc, la sénatrice affirme qu'entre 1997 et 2014, le nombre d'inscriptions dans les écoles du Conseil scolaire francophone en Colombie-Britannique, le CSF, a augmenté de plus de 75% et que cette hausse est de 65% dans les programmes d'immersion française. Claudette Tardif, qui est originaire d'Alberta, estime que ces les chiffres devraient faire l'objet d'une célébration, mais au lieu de cela, elle constate l'ampleur des défis et l'urgence de la réponse. L'offre ne répond malheureusement pas à la demande, a déclaré la sénatrice. Le nombre de places dans les écoles demeure insuffisant et l'état désuet des infrastructures, des obstacles majeurs à l'éducation en français. Je rappelle le titre de l'article, Éducation en français en Colombie-Britannique. L'offre ne suit pas la demande. On va se tourner vers les médias anglophones de la province maintenant. On va revenir dans le dossier de l'élection qui a été si longtemps... au cours des dernières semaines, un sujet d'actualité en raison du suspense qui a perduré. On a un article de Paul Wilcox dans Le Taï, notre portail indépendant de journalisme ici sur l'île de Vancouver. Donc, dans cet article du Taï intitulé « The Big Winner in BC's Election, Citizens », Paul Wilcox, comme le titre l'indique, se réjouit de l'apport citoyen au débat démocratique. Les réels vainqueurs de cette élection 2017 en Colombie-Britannique, selon le chroniqueur du Taï, sont les citoyens. Et sa chronique étaye cette affirmation. Je vous recommande la lecture de ce texte d'opinion donc, que vous trouverez sur le portail de taï.ca. Et dans le Times Colonist, on a un éditorial qui applaudit Christy Clark pour sa décision de forcer un test en chambre. Donc, Christy Clark qui va soumettre sa formation politique libérale à un vote de confiance ce mois-ci. Elle va convier les membres de l'Assemblée législative pour justement appeler à un vote de confiance. Et bien sûr, elle s'attend à être défaite lors de ce vote de confiance. Si effectivement les néo-démocrates et le Parti vert font bloc, elle sera défaite et la lieutenante gouverneure de Colombie-Britannique, Judith Guichon, devra en tirer les conséquences et confier le gouvernement à John Horgan, avec l'appui bien sûr du chef des Verts, Andrew Weaver, qui a le pouvoir si crucial d'arbitrage en raison de ses trois députés élus le 9 mai dernier. Donc voilà cet article, cet éditorial plutôt du Times Colonist. Clark is right to force a vote. Donc Clark a raison de se soumettre à un test à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Ça aura pour effet d'accélérer le processus démocratique. Tout le monde sera au clair sur la suite des événements de cette manière. Pour rester dans les colonnes du Times Colonist, peut-être avez-vous aperçu le Times Colonist aujourd'hui tandis que vous achetiez votre café matinal. La page frontispice, la une du Times Colonist est consacrée à un projet d'agrandissement des chantiers navals de VicWest, Point Hope Shipyard, que vous voyez tout de suite après le pont bleu en traversant vers VicWest et Esquimalt lorsque vous arrivez du centre-ville de Victoria. Donc c'est à votre droite. Il y a un chantier naval là où on répare des navires, notamment on effectue des travaux de maintenance. Point Hope Maritime souhaite obtenir un permis d'agrandissement. Le projet s'élève à 50 millions de dollars. Ils veulent pouvoir aménager un espace où les navires pourront être réparés en cale sèche, donc un endroit, un bassin sec où les travailleurs pourront réparer la coque des navires, par exemple. Et bon, ça nécessite des travaux très importants. Je le disais, des travaux qui vont s'élever à 50 millions de dollars. Times Colonist a tous les détails. Il y a une maquette assez fascinante du projet en photo. Donc, il y a un visuel. Évidemment, c'est une projection. C'est un dessin, si vous voulez, un dessin numérique de ce corollaire, cet agrandissement. Et ça comprend aussi tous les agrandissements, tous les travaux immobiliers qui se font dans cette région-là, dans ce secteur-là appelé Point Hope, dans le secteur de VicWest et même jusqu'à Esquimalt. Donc vous avez une vue aérienne qui est vraiment très intéressante et que vous pouvez explorer tant sur le journal, si vous l'avez entre les mains, que dans le site web à l'adresse timescolonist.com. Et c'est sur cette actualité locale qu'on va refermer aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on consulte la météo des prochains jours sur le site d'Environnement Canada, météo.gc.ca. À tout de suite. Le temps file à toute vitesse, c'est déjà la fin de cette édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Avant de se quitter, on jette un petit coup d'œil rapidement à la météo. Si vous nous écoutez en direct en fin de journée du 1er juin, c'est environ 16 à 17 degrés du côté de l'aéroport de Victoria. Le mercure va descendre à 11 degrés ce soir. Il y aura des averses, donc le soleil qu'on a actuellement en fin d'après-midi, ça va se couvrir et Environnement Canada nous annonce des averses pour la soirée et la nuit prochaine. Vendredi 2 juin, du soleil, quelques passages nuageux et un maximum de 18 degrés. Donc une belle journée qui est presque estivale demain, vendredi 2 juin. Ce sera 11 degrés encore une fois en soirée, mais ce sera dégagé cette fois. Et pour le week-end, samedi 3 juin et dimanche 4 juin, 18 degrés. Pour la journée du 3 juin, on espère que le 3 fait le mois ce mois-ci. Et pour le dimanche 4 juin, 17 degrés avec du soleil, quelques timides passages nuageux pour la journée de dimanche. Et donc un week-end qui s'annonce très agréable. Et ensuite, dans les jours qui suivent, la projection d'Environnement Canada prévoit un lundi tout aussi ensoleillé et la poursuite d'un temps très agréable dans les jours suivants avec un maximum de 24 pour le mercredi 17 juin. Alors ça, c'est encore très loin. On verra si ça se confirme. Et si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur le portail météo.gc.ca. Voilà qui conclut le petit topo météo. Merci d'avoir passé cette heure d'information avec nous. À très bientôt sur les ondes de CILS FM 107,9.
Allô, c'est Kétan. Vous écoutez CILS FM, la radio communautaire de la francophonie à Victoria.
L'album Desjardins, un album hommage réunissant quelques-unes des plus belles chansons de Richard Desjardins, interprétées par 14 artistes de grand talent, dont Fred Fortin, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Bernard Adamus et plusieurs autres. En vente partout dès le 28 avril.
Souviens-tu quand on faisait exploser des pétards? Mais j'étais drôle de faire. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Je suis content de savoir que tu vas bien. Si tu veux, on se verra demain. On ira au café du coin. On va jaser du bon vieux temps. Comme de vieux chums un peu blasés de ce qui est rendu le petit bonheur dans notre routine embrouillée. Pour être franc avec toi, ça faisait longtemps que je voulais t'appeler. Ça a juste pas à donner. Je suis débordé, tu sais ce que c'est. À cette heure, il faut s'organiser pour se voir un peu plus souvent. Faut arrêter de niaiser. Dans ce temps-là, la vie, on la prenait au jour le jour. Dans ce temps-là, on apprenait la vie au jour le jour, malgré les erreurs de parcours.
Vous écoutez CILS FM,
l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Vous écoutez CILS FM,
la voix de votre communauté.
Allô la planète avec Chapka.
Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Allô la planète, c'est parti pour un nouveau numéro, ce sera le numéro 154 si je dis pas de bêtises. Pauline sera avec nous. Oui, elle est. Alors j'ai vu Pauline, j'ai vu passer des. C'est pour ça que j'ai appelé des photos Facebook, elle était à Dubaï en train de faire du ski. Je dis alors là, bon, faut que tu viennes dans l'émission parce que des à Dubaï qui font du ski, on n'en a pas eu encore. Notre ami Nico revient tout juste de Budapest, Bucarest, je crois. Il voulait nous raconter le petit débrief, comme il me dit. Et nos amis de On Plie Bagages, Tania et Guillaume, sont là.
Allô la planète, avec Eric Lange.
Tania et Guillaume, qui est là?
Oui, on est là.
Tous les deux?
Les deux, on est là tous les deux.
Oh, j'ai les deux pour le prix d'un, c'est bien.
On quitte jamais en fait.
Et dites-moi les deux, je sais plus si vous étiez déjà passé dans l'émission ou pas. J'ai recherché, j'ai pas trouvé.
Exactement, il y a quelques années.
Ah ouais.
Ouais, on avait fait un premier documentaire en Laponie et tu nous avais appelé. On était en Laponie sous une aurore boréale.
D'accord. Je suis toujours jaloux, je les ai toujours pas vus, les aurores boréales. Vous m'énervez tous.
Ah, faut que j'y aille. Regardez vos photos.
Faut que j'y aille. Là, vous êtes en France?
Oui, on est rentré il y a, je sais pas, deux semaines.
En Argentine. En Argentine. Alors attends, avant, il faut quand même rajouter que vous balandez tous les deux depuis un bout de temps quand même sur les routes du monde maintenant.
Ouais, on a commencé notre projet en petit bagage en 2010 ou 2011.
Ah, ça nous rajeunit pas, ma bonne dame.
Eh non. Et Guillaume avait beaucoup moins de barbe que ça à l'époque.
Et c'est quoi le projet en pli bagage? C'était quoi au départ?
Alors en fait, on sortait d'études d'audiovisuel, on avait appris le montage vidéo. Ouais. Et puis on avait envie de s'essayer un peu sur le terrain, à faire nos propres réalisations de documentaires,